Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à tous et bienvenue pour l'émission européenne de Radio Judaïka de RCF Alsace réalisée en collaboration avec l'Europe Direct de Strasbourg. Alors, l'idée d'une fédération d'États européens comme moyen d'éloigner la guerre à tout jamais du continent est ancienne. Il faudra attendre les stigmates des deux guerres mondiales pour que des projets d'unification de l'Europe voient le jour. Mais les prémices de l'Union européenne viendront d'un homme de l'ombre, Jean Monnet. Premier commissaire au plan nommé par le général de Gaulle en 1946, il considère la nécessité d'une réconciliation franco-allemande. À cette fin, il fut l'inspirateur de la déclaration que prononcera le ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman le 9 mai 1950. Cette déclaration dont on parlera au cours de cette émission aboutira à ce qu'on appelle le traité de Paris, signé le 18 avril 51, il y a plus de 70 ans, créant la communauté européenne du charbon de l'acier avec l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons aujourd'hui de revenir sur l'histoire singulière et quelque peu méconnue de Jean Monnet avec nos deux invités. Nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Sylvain Schirmann, professeur d'histoire des relations internationales contemporaines à l'Université de Strasbourg, spécialiste de la construction européenne et des relations franco-allemandes et ancien directeur de l'IEP de Strasbourg. Bonjour Monsieur Schirmann.
Bonjour monsieur.
Et avec nous dans le studio, nous accueillons également Alexis Metzinger de Serigo Film, producteur du documentaire Jean Monnet, le père discret de l'Europe, réalisé par Rudolf Merschdorf, en partie basé sur des images personnelles tournées par Jean Monnet lui-même et récemment redécouvertes par hasard. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Bonjour.
Alors, on donnera les dates de diffusion de ce documentaire au cours de l'émission. Alors, merci à tous les deux d'être avec moi aujourd'hui pour cette émission. Alors, monsieur Metzinger, vous avez produit donc un documentaire retraçant l'histoire de Jean Monnet. Pourquoi avoir décidé de produire ce documentaire aujourd'hui sur ce personnage ?
Écoutez, l'idée est venue du réalisateur Rudiger Merschdorf, qui est donc un Allemand avec qui on a déjà travaillé, et qui est venu nous proposer ça, et on a été assez étonnés, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas Jean Monnet, et en se penchant sur sa vie, on s'est rendu compte qu'en fait, elle éclairait beaucoup la construction européenne, ou les débuts de la construction européenne, et on s'est rendu compte que même encore aujourd'hui, il y avait, je sais pas, c'est une urgence, mais en tout cas, il y avait un intérêt très très fort à redécouvrir la vie et la pensée de celui qui est un peu qui a lancé l'étincelle initiale, et qui a porté un peu la construction européenne.
Alors, une des spécificités de votre documentaire, c'est d'avoir retrouvé par hasard dans un grenier, vous dites, des images inédites filmées par Jean Monnet lui-même. Vous pouvez nous raconter un peu comment vont ces images,
comment vous avez découvert ces images ? C'est pas nous, techniquement, qui avons redécouvert ces images, mais lorsqu'on est allé au tout début un peu du projet du film à la Fondation Jean Monnet, qui est basée à Lausanne et qui conserve ses archives, pour un peu discuter avec eux, voir ce qu'ils avaient en fait comme matière, et ils nous ont dit, bah oui, écoutez, ça tombe bien, on vient de découvrir, un descendant de Jean Monnet vient de nous apporter une caisse, un carton, où il y avait marqué « conserve » dessus, et en fait, dedans, il y avait une quarantaine de bobines de 16 mm, en fait, de caméras amateurs, qui avait été filmé par Jean Monnet et par son épouse, comme à l'époque les familles pouvaient se filmer dans des années 20, 30, jusqu'aux années 40.
Alors donc vous avez dû dérocher, regarder toutes ces vidéos.
Oui, c'est ça, on était parmi les tout premiers, juste après un peu le documentaliste ou l'archiviste de la Fondation. On les a regardés chez eux et effectivement on a découvert, on était parmi les tout premiers à découvrir ces heures d'images. Assez incroyable pour...
Et nous, on pourra les découvrir en regardant votre documentaire.
Les meilleurs moments, oui.
Alors, Monsieur Schirmann, dans le documentaire, le réalisateur, Rudiger Merschdorf, revient sur les événements qui ont jalonné la vie de Jean Monnet, notamment avant la construction européenne. On peut un peu se demander comment Jean Monnet est devenu le Jean Monnet père fondateur de l'Europe. Et c'est ce qu'on découvre un peu dans ce reportage. Et on découvre surtout que rien ne le prédisposait à faire ce genre de choses.
En fait, bon, la vie de Jean Monnet nous est assez bien connue. Je veux dire, il n'y a pas de grande zone d'ombre depuis un certain nombre de travaux d'historiens, depuis beaucoup d'ouvertures des archives, depuis aussi l'existence de ces archives à la Fondation Jean Monnet. Disons qu'au point de départ, c'est un autodidacte que son père a envoyé vers les marchés nord-américains pour représenter et vendre le Cognac familial. Donc c'est un négociant. Mais comme c'est en même temps un esprit curieux, que découvre-t-il en Amérique du Nord ? Ce qu'il découvre en Amérique du Nord, c'est la force d'un grand marché qui est en train de s'unifier. Le marché américain, c'est un marché d'est en ouest de 5000 kilomètres et du nord au sud aussi de plusieurs milliers de kilomètres. Et tout ça forme un bloc homogène, alors qu'en réalité, il y a aussi des États fédérés dans ces États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'ils découvrent ? Ben, ils découvrent la force du marché. Ils découvrent la capacité des États américains à travailler ensemble, à partager ce marché ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, au cours de la Première Guerre mondiale, en ayant découvert la force d'attractivité des États-Unis, qu'ils proposent aux Français et aux Anglais de créer une espèce de structure d'achat interallié pour ensemble commander ce qui est nécessaire pour faire la guerre, et notamment un office sur les céréales. Et donc de créer une première forme de comité interallié, une première forme de construction économique entre deux pays au profit des deux États en guerre, en homogénéisant leurs achats. Et de fil en aiguille, on le retrouve ensuite au lendemain de la Première Guerre mondiale comme secrétaire général adjoint de la Société des Nations. Et c'est là qu'il découvre aussi les réalités de l'Europe déchirée d'après la Première Guerre mondiale, et notamment des difficultés économiques qui attendent cette Europe, et qu'à partir de ce moment-là, c'est à partir de 1920, lorsqu'on crée les comités économiques et financiers de la Société des Nations, d'ailleurs il n'est pas le seul, hein. Vous avez Drummond l'anglais, vous avez Solter, un autre britannique, mais vous avez aussi des Belges et d'autres Français comme Louis Loucheur, qui était le ministre de la reconstruction industrielle en France au lendemain de la guerre, qui se disent qu'en fait, il faut organiser l'économie européenne et sur une base d'un marché vaste, parce que c'est la seule façon d'amener l'Allemagne à payer les réparations, c'est la seule façon d'amener le désastre. Et donc en 1923, pour des raisons personnelles et privées, il quitte la Société des Nations et revient dans les affaires privées, la maison Cognac, les banques, et donc ensuite a des contacts approfondis avec l'Amérique du Nord. Et lorsque la guerre éclate en 1940, on le retrouve derrière la proposition d'union entre la France et le Royaume-Uni faite par Winston Churchill. Pour Winston Churchill, cette union n'était pas conçue comme étant définitive, parce qu'il s'agissait à tout prix de maintenir la France dans la guerre, et cette union pouvait être le déclic pour maintenir la France dans la guerre et éviter que les Français ne lâchent le combat à travers l'armistice. La chose ne se faisant pas, bon, on le retrouve derrière le Victory Programme, puis on le voit au Comité français de libération nationale à Alger, et par voie de conséquence à Alger, c'est lui qui fait, c'est une note du 15 août 1943, une première proposition au général de Gaulle dans laquelle il dit au lendemain de cette guerre, il faudra...
Je vous interromps avant de rentrer dans la reconstruction. Je vais poser aussi la question à M. Metzinger. Ce qui est quand même très particulier, si on reste un peu sur le personnage qui est aussi présenté dans le documentaire, rien ne le prédispose à faire cela. C'est-à-dire qu'il est homme d'affaires, même s'il part aux États-Unis. Comment il crée finalement ce réseau, comment il arrive par exemple à finir secrétaire général adjoint de la SDN? Il a moins de 30 ans ou à peine 30 ans, ce qui est quand même assez particulier pour cette époque-là.
Effectivement, il a su s'imposer sa force de conviction, mais effectivement, ça reste très étonnant qu'il aurait pu très bien mener une vie, une carrière d'homme d'affaires. Mais il le dit, hein, qu'en fait, ça l'ennuyait. Alors, il a gagné beaucoup d'argent, il a aussi beaucoup perdu. Mais effectivement, il avait en lui quelque chose qui le prédisposait à s'investir dans les affaires publiques dès 1914, quand il décide d'aller voir Viviani, là, comme M. Schreiman l'a rappelé, pour proposer d'unir les efforts de guerre français et allemands. Et ensuite, effectivement, alors, pourquoi ? C'est un peu un mystère. Enfin, un mystère, en tout cas, c'est la personnalité de Jean Monnet qui a fait ce choix assez étonnant.
Monsieur Schirman, qu'est-ce qui le guide finalement, Jean Monnet, d'un point de vue, je dirais, politique ou philosophique? Qu'est-ce qui l'amène à faire ça? C'est quoi son fil directeur? Ce qui l'amène à faire cela?
Jean Monnet est dans l'âme ce qu'on appelle, en théorie de sciences politiques, un fonctionnaliste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui croit que si on lit les intérêts matériels, on peut dépasser les conflits d'intérêts entre les États. Et par conséquent, en les liant dans une structure, en insistant sur l'aspect matériel, c'est l'économie qui est toujours au centre de ces réflexions. On peut créer un petit pas vers la pacification. Et donc, Jean Monnet est animé par cette idée-là qui va le guider tout au long de sa vie. Quand il fonde le comité d'action pour les États-Unis d'Europe après avoir quitté la présidence de la haute autorité de la CECA, ce comité, il est dans cette ligne-là. Et alors, il est persuadé que ce sont les élites aussi, c'est un deuxième trait. Il est persuadé aussi que ce sont les élites qui ont la responsabilité et qui peuvent construire ces liens. Il n'y a pas, il faut le dire aussi peut-être clairement, d'adresse directe de Jean Monnet aux populations, aux peuples. Son idée, c'est de penser que les élites, en liant les intérêts des nations dont ils ont la charge, peuvent construire un processus de pacification des relations interétatiques à travers des structures qui les lient. Et in fine, ça pourrait déboucher en ce qui concerne l'Europe sur des États-Unis d'Europe. Le titre du comité est assez explicite. Et quand vous regardez ce comité, le documentaire que j'ai vu aussi le montre bien, ce sont des personnalités. Vous avez Helmut Schmidt, vous avez Willy Brandt qui en font partie.
Jean Monnet était effectivement un homme de réseau qui effectivement avait des relations dans les milieux soit politiques, soit économiques ou journalistiques. Ce que vous pointez là, je pense que c'est ce qui a fait sa force, c'est ce qui a permis, je pense, à la CECA de se construire. Et c'est peut-être aussi ce qu'aujourd'hui, on pourrait estimer comme étant peut-être pas sa faiblesse, mais en tout cas, effectivement, peut-être un manque de l'Europe qui s'est construit sur cette idée d'une élite technocratique. Et qui, alors qu'aujourd'hui, on sent peut-être plus ce besoin de
rapprocher les peuples.
De rapprocher les peuples et de faire appel aux peuples pour légitimer cette construction.
Oui, si vous voulez comparer avec un autre grand Européen qui est Altiero Spinelli, qui est l'auteur du manifeste de Ventotene de 1941 qui demande la construction d'une Europe fédérale, ça aussi ce sont des racines de la construction européenne. Altiero Spinelli dit clairement que cette Europe se construira avec les peuples dans le cadre d'un mouvement européen qui ressemble à des grandes formations politiques qui pousseraient vers l'unification européenne. Ça, c'est pas le raisonnement de Monnet. Le raisonnement de Monnet, c'est de passer par des réseaux d'élites.
Aujourd'hui, il est critiqué par des détracteurs de l'Europe, mais qui joue un peu sur son histoire, hein, le fait qu'il ait quand même vécu aux États-Unis, comme vous l'avez dit d'abord dans sa carrière, qu'il ait créé un réseau aux États-Unis, hein, qu'il était quand même très proche de Roosevelt, de personnages de l'administration américaine, qui font dire de lui qu'il serait un agent de la CIA. Est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites sur ce sujet pour discréditer des gens comme Philippe de Villiers qui ont écrit ce genre de choses dans leurs ouvrages ?
Puisque vous avez cité De Villiers, vous avez dû voir aussi ma réponse avec certains historiens à De Villiers. Le fait que Jean Monnet ait des réseaux aux États-Unis est connu des historiens depuis le début. À partir de là, il faut quand même dire deux, trois choses très clairement. La première des choses, l'une des racines de la construction européenne, c'est aussi la guerre froide. Les États-Unis ont soutenu le processus depuis le début. Ils ont lancé le plan Marshall, qui ont amené les Européens à coopérer. Pour lancer le plan Marshall, il n'y a pas de Monnet derrière le plan Marshall. Ils ont, en 1949, nous ne sommes pas encore dans le cadre de la déclaration Schuman, ils ont mis en place l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, pour permettre à l'Europe occidentale d'être sécurisée. Et ensuite, c'est Robert Schuman, il faut peut-être le dire, qui au mois de septembre 1949 rencontre Dean Acheson, le secrétaire d'État américain, où les Américains demandent au ministre français de prendre une initiative qui permette de réintégrer l'Allemagne dans la famille. Le ministre français Robert Schuman n'avait pas d'idée de la façon dont il fallait réintégrer l'Allemagne. L'idée, c'est Monnet qui l'a lui fourni. Et donc, en fait, la guerre froide, l'intérêt des États-Unis pour l'Europe dépasse très largement la personne de Monnet. Alors il a des réseaux qui lui sont familiers, qui ne sont pas la CIA. Et là où il va bénéficier de crédits américains, c'est au moment où il crée le comité d'action pour les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire lorsqu'il prend la tête d'une structure associative après 1955.
C'est quand il aura quitté
l'essentiel
la CIA.
L'essentiel est fait.
Alors, je vous propose de faire une toute petite pause musicale et nous remettre un peu dans l'ambiance des années 50 au moment de cette déclaration Schumann, ou en tout cas de l'écriture de cette déclaration Schumann. Alors, on va d'abord écouter, on va revenir un petit peu aux États-Unis, mais vu que Jean Monnet y était assez proche, en écoutant du Nantine Cole.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness?
Du Yves Montand pour revenir en France avec Les Feuilles Mortes, qui était aussi une chanson de 1950.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Voilà, donc on est là en 1950, on écoute ça sur nos transistors. Et donc Jean Monnet, le 28 avril, va transmettre son plan à Robert Schumann. Et tout ira ensuite très vite, puisque le fameux discours de Robert Schumann sera prononcé le 9 mai. Schumann n'était pas réputé pour prendre des décisions rapides. Comment se fait-il donc, là vous l'avez un petit peu explicité avant avec la réintégration de l'Allemagne, mais comment se fait-il qu'il soit allé finalement si vite? On est le 28 et le 9 mai, il va faire sa déclaration Schumann en invitant les Allemands à s'unir autour du charbon et l'acier.
Il faut quand même vous dire qu'il y avait un timing. C'est-à-dire que les États-Unis attendaient pour le sommet de l'OTAN de Londres, et qui était prévu 8 jours après ce fameux 10 mai, 1950, une initiative qui permette d'afficher une intégration de l'Allemagne. Or, tout à fait clairement, lorsque Schumann reçoit ce fameux 28 avril la déclaration préparée par Monnet, enfin le projet plutôt de CK préparé par Monnet, qu'il l'emmène chez lui en Moselle à Sichazel pour l'étudier et qu'il revient et qu'il dit qu'en fait il en fait son affaire, à partir de ce moment-là jusqu'au 9 mai, il y a d'abord plusieurs versions du projet qui sont sur place. Et donc, ces versions successives sont travaillées. La deuxième chose aussi, c'est une initiative politique majeure, parce que c'est un virage à 180 degrés de la politique extérieure française par rapport à l'Allemagne. Et donc, ce virage, vous ne pouvez pas le mettre en place par un simple effet d'annonce. Il faut le préparer. Il faut le préparer au niveau du gouvernement français. Et il faut aussi, puisque le texte s'adresse nommément à l'Allemagne, obtenir auparavant l'accord allemand. Alors la stratégie gouvernementale, elle est certes mise en place par Schumann lui-même, il est ministre, qui consiste finalement à attendre la fin du Conseil des ministres du 9 mai pour dire qu'il allait prendre une initiative importante et pour qu'en fait le Conseil des ministres ne puisse pas en discuter et lui laisse l'initiative. C'est ce qui se passe. Après avoir mis le même jour le président du Conseil Bidault dans la confidence. Quand vous attendez le dernier moment d'un Conseil des ministres, vous savez, les ministres sont pressés de partir, et donc on vous dit oui, prenez-en l'initiative, c'est très bien, vous endosserez la responsabilité politique. Et donc, on a eu le feu vert du gouvernement français, à part le président du Conseil, peu de ministres savaient de quoi il allait en retourner. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est que Schumann avait dépêché Michlich, qui était un de ses collaborateurs auprès d'Adenauer, lequel lui a donné, si vous voulez, son accord sur le projet CK. Et donc, quand il sort son fameux discours du Salon de l'Horloge du 9 mai en présentant la CK, eh bien, il savait qu'il allait avoir une réponse positive de l'Allemagne. Et avec cette réponse positive de l'Allemagne, il savait que le soutien américain lui serait acquis aussi à ce projet de CK. Et par voie de conséquence, il serait beaucoup plus facile dans la foulée de convaincre d'autres pays de rejoindre le pôle franco-allemand. Alors si Monnet est le concepteur, il ne faut jamais oublier le rôle politique majeur de Robert Schumann. c'est là où ça fait basculer les choses. Parce qu'un plan de très haut fonctionnaire peut être valable, pertinent, juste. La responsabilité politique, le basculement politique et la stratégie politique, ça, c'est Robert Schuman.
Mais la méthode est quand même assez intéressante. En tout cas, ce qu'il va proposer, je vous propose d'écouter un petit extrait de Pierre Pflimlin, l'ancien maire de Strasbourg, mais aussi ancien président du Parlement européen, à propos de la proposition de Monnet.
Jean Monnet a réussi à donner à cette aspiration vers l'unité de l'Europe une forme totalement nouvelle. C'était là ce qui était génial. Pas autrefois, quand il y avait eu des guerres, qu'est-ce qu'on faisait? On signait des traités qu'on appelait des traités de paix. L'idée du plan Schuman, inspirée par Monnet, était d'une nature tout à fait différente. Il s'agissait de créer une communauté dans laquelle vainqueur et vaincu entreraient sur un pied d'égalité. Non pas seulement pour organiser, disons, une coexistence pacifique, mais pour créer ensemble des liens de solidarité et pour créer véritablement une Europe nouvelle avec ses structures, avec ses instances, avec ses organes, c'est-à-dire avec des capacités de concevoir des décisions et de les mettre à exécution. Une idée formidablement nouvelle, n'est-ce pas ?
Et ce sera aussi ce que disent beaucoup après, c'est une forme d'abandon de souveraineté, M. Schuman. Que propose M. Monnet ?
Pour moi, ce qui est important, c'est d'abord la symbolique. Celle de prendre deux anciennes industries de guerre, le charbon et l'acier, qui ont alimenté les arsenaux de tous ces pays européens, pour en faire des industries au service de la reconstruction européenne et des industries que l'on va gérer en commun. La deuxième chose qui est importante pour moi dans le plan Monnet, c'est la méthode. La méthode, c'est celle des petits pas. C'est d'unir ceux dont on a réellement besoin sur le moment, en l'occurrence pour la reconstruction, l'industrie sidérurgique et l'industrie charbonnière, de les réunir dans un cadre commun, créé ensemble par les États, les amenant à coopérer. Et espérer à travers cette coopération des liens de solidarité croissants qui font qu'en sorte, on soit obligé d'amener des institutions supplémentaires. C'est ça, la méthode fonctionnaliste. Et elle fonctionne, si vous me permettez encore cela, dès la négociation du traité de Paris pour la CECA, cette méthode. Pourquoi ? Parce que Monnet n'avait prévu qu'une institution, la haute autorité de la CECA. Et vous sortez au traité de Paris avec des institutions supplémentaires, puisque vous créez une assemblée parlementaire de la CECA, puisque vous créez une cour de justice de la CECA, et puisque vous créez un comité consultatif CECA. Ce n'était jamais prévu chez Monnet. Ce qui était prévu chez Monnet-Schuman, c'était l'existence d'une haute autorité seule. Et du coup, en appliquant la méthode Monnet, créer des solidarités et voir comment ces solidarités génèrent de nouveaux besoins, eh bien, vous sortez avec une organisation, la CECA, et un certain nombre d'institutions. Et ça, ça lie les peuples. Et là, on a la méthode Monnet, que vous retrouverez quelquefois à l'œuvre dans la suite de la construction européenne. Le traité de Rome fonctionne sur cela. Une union douanière, un marché commun. C'est-à-dire, on va plus loin. Ça répond aux nécessités de la croissance et ça crée des institutions. Et si vous voulez un dernier commentaire là-dessus, quand Jacques Delors cogite avec sa commission le marché unique, vous avez encore une fois la méthode Monnet à l'œuvre.
On rapporte aussi beaucoup dans votre documentaire, Monsieur Metzinger, un peu ce côté positif de Jean Monnet, quelqu'un qui n'abandonne jamais, quelqu'un qui cherche toujours à trouver des solutions. Il aura dit, alors ça c'est une phrase qu'on lui rapporte, hein, l'Europe se fera dans les crises, elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Vous trouvez qu'il avait raison, qu'on a construit l'Europe sur des crises ?
Ce qui m'avait frappé à la fois dans ses mémoires et aussi dans ses notes personnelles, qu'on appelle les fiches roses pour les spécialistes, de journaux où il se parle un peu à lui-même, c'est qu'il avait effectivement des idées très fortes sur sa vision, on va dire, du monde ou presque de la civilisation ou de l'avenir de l'Europe, mais il n'était pas figé quant aux institutions qui devaient les incarner. Et comme on vient de, comme M. Schuman vient de le dire par rapport au traité de Paris, effectivement, c'était par les petits pas, par la négociation. Et il ne cherchait pas absolument à créer des institutions, il cherchait surtout à construire un mouvement et une union des peuples, et, enfin, ou des institutions et des pays. Et pour ça, il pouvait tout à fait trouver à chaque fois d'autres solutions pour bousculer un petit peu les chefs d'État qui étaient un peu trop frileux ou trop repliés. Et il était plus, dans, effectivement, un homme d'action dans le mouvement. Du coup, forcément, le mouvement répond à des crises que dans la création d'institutions qui seraient dans son esprit figées une fois pour toutes. Et ça, c'était quelque chose qui est assez positif par rapport à l'idée de l'Europe, on va dire, pour moi.
Alors, Monsieur Schuman, vous êtes d'accord avec cette idée que l'Europe se construit dans les crises? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit encore ce qui se passe avec la crise de Covid, on peut dire qu'il ne s'est pas trompé?
En fait, il n'y a que ça, je pense, pour la construire. Parce que quand tout va bien, où avez-vous le besoin d'Europe? C'est-à-dire que sur la première communauté 1950, sur le premier projet 1950, vous êtes déjà dans une crise européenne. Vous êtes dans une crise économique européenne parce que la reconstruction marque le pas, parce que vous avez des goulets d'étranglement. Vous êtes dans une crise internationale qui nécessite des solidarités européennes, parce que je vous rappelle quand même qu'au moment où ça part, une guerre éclate en Corée, qui met aux prises les Américains et les Soviétiques de façon interposée, et que par conséquent, il y va de l'existence de l'Europe occidentale. Vous êtes dans une crise franco-allemande. Je vous rappelle que quand Konrad Adenauer devient chancelier en 1949, il revendique la fin de la mainmise des Alliés sur la Ruhr. Il revendique le retour de la Sarre à l'Allemagne, toute chose qui fâche. Et donc, de ces éléments de crise, l'idée de Brunet, c'est d'en sortir par le haut. Et le haut, c'est la CECA. Et il n'y a que ça pour avancer, c'est d'essayer de sortir des crises par le haut. Et si vous me permettez juste encore une dernière remarque, il faut dire aussi, parce que ça n'est jamais évoqué, que quand vous avez des projets de construction d'Europe unie, vous avez aussi des adversaires de ces projets de construction. Ils sont là depuis le début. Si vous regardez les sidérurgistes français, est-ce que vous pensez qu'ils avaient applaudi à ce projet de CECA? Loin de cela. Au contraire, ils l'ont fustigé. Si vous prenez le mouvement communiste, il est contre ce projet de CECA. Je vous rappelle, c'est la cartélisation de l'Europe occidentale, c'est l'acier contre l'URSS. Si vous prenez les gaullistes, ils sont contre ce projet CECA. D'ailleurs, regardez la ratification du traité CECA à l'Assemblée nationale française en 1951. Eh bien, vous les avez, ces débats entre anti et pro. Mais une chose est sûre, c'est que la crise est un élément d'incitation à essayer de la dépasser par le haut. Mais ça ne marche pas toujours, hein.
Donc si on veut en connaître un petit peu plus sur Jean Monnet, rien de mieux que de regarder ce documentaire pour voir un petit peu toute cette histoire qui est vraiment un périple d'une vie dont on peut être quand même surpris oui, de voir comme elle était remplie.
C'est ça, on a mis l'accent. En 52 minutes, c'est finalement assez court pour une vie aussi remplie que celle de Jean Monnet. Donc là, le film met l'accent vraiment sur tout ce qu'a mené Jean Monnet depuis 1914 jusque dans les années 50. Et donc on a la chance d'avoir une diffusion en fait quasiment européenne, puisque le film sera diffusé donc en France, si je peux les dates. Oui, donc sur France 3 Grand Est et un peu même les autres France 3 régionaux, donc le lundi 3 mai autour de 23h. Et sur Public Sénat le 15 mai, le samedi 15 mai à 21h. Et on aura aussi des projections, enfin des diffusions en Belgique, en Allemagne, tout récemment. Et ce sera aussi projeté au Luxembourg. Donc on est content d'avoir une diffusion quasiment européenne pour ce film.
Surtout, et surtout des pays de la CECA. C'est ça. Alors je voulais vous remercier, Monsieur Schuman, pour votre participation à notre émission.
Voilà.
À quelques jours du 9 mai, puisque l'émission sera diffusée dans le cadre un peu de cette semaine de l'Europe. Monsieur Metzinger, je rappelle donc que vous êtes le coproducteur et un des rédacteurs de ce documentaire Jean Monnet, ce père discret de l'Europe. Et je rappelle que l'on pourra suivre donc sur France 3 Grand Est le 3 mai à 23h et sur d'autres France 3 dans d'autres régions, le 15 mai sur Public Sénat à 21h. Donc un documentaire que nous conseillons vivement à tous nos auditeurs. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour parler politique européenne des transports avec le député européen Dominique Criquet. À bientôt.